Voilà, je lirai donc dans Matthieu au chapitre 13, les versets 44 et 46. En fait, ce que je vais faire, je vais lire un peu en amont et un peu après pour que vous puissiez prendre ces deux versets sur lesquels je vais prêcher de manière entière. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Avez-vous compris ces choses ? Oui, répondirent les disciples. Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Alors voilà, nous sommes au chapitre 13 de Matthieu, un chapitre que Matthieu a décidé de consacrer aux paraboles de Jésus, et plus particulièrement aux paraboles concernant le royaume de Dieu, son économie, c'est-à-dire nous dit comment comprendre le royaume et quelle doit être notre place dedans, quel doit être notre rapport à ce royaume, quelle y est notre place, quel en est l'accès, quel en est le prix. De bonnes questions, en tout cas, à se poser. Alors, dans cette parabole, par exemple, qui est la perle de grand prix? On répond souvent spontanément, c'est... Quelqu'un saurait? Qui est la perle de grand prix? Aucun souvenir de votre caté? C'est Jésus. C'est ce que spontanément, ce qui va sortir. Normalement, quand vous demandez ça à des enfants, bam, ça sort tout seul. Mais oui, la perle de grand prix, c'est Jésus. Et on va voir qu'en fait, on peut le lire, évidemment, différemment, parce que c'est ce qu'on a toujours entendu. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à la fin de cette longue série de paraboles, Jésus questionne donc les disciples, et il leur dit « Avez-vous compris cela ?» Un peu comme un prof d'école qui vient de terminer sa leçon. « Avez-vous compris cela ?» Comprendre, c'est donc un des mots-clés de l'Évangile. Jésus est un enseignant qui s'adresse à des disciples, à des élèves, à qui il présente une manière de penser. Il n'impose pas une vérité, il enseigne la vérité. Et l'Évangile n'est pas un enseignement de directive à mettre en application à la lettre, mais un enseignement adressé à la conscience des hommes, par lequel il nous est donné de grandir en compréhension, en connaissance véritable, de la vie, du monde et de nous-mêmes. D'ailleurs, dans la Bible, cette connaissance, ce don de Dieu, est présentée comme une condition de la liberté. Jésus forme des disciples, pas des adeptes. Des disciples auxquels il offre de passer de la dépendance à la connaissance. Des disciples auxquels Jésus dit « Je proclamerai en parabole des choses cachées depuis la fondation du monde. » Il faut comprendre des choses présentes au cœur même de votre vie. Il leur dit en fait « Je vous enseigne la vérité sur vous-même, la vérité qui est au fond de votre cœur, de la vie et du monde, comme un trésor qui est enfoui sous la terre dans un champ. Et je ne viens pas importer une idée nouvelle, une nouvelle réalité, je ne viens pas opposer la vérité à la réalité du monde et de la vie. Je viens révéler la vie au cœur, à la source de la réalité, enseigner une meilleure connaissance de la réalité. Jésus leur dit bien, je n'apporte pas de nouvelles choses, mais j'enseigne un nouveau regard. J'enseigne un changement de regard. J'enseigne à connaître le monde et la vie non pas comme une fatalité de domination et de haine, mais comme l'œuvre et la promesse de l'amour de Dieu. Alors mes amis, si Jésus souhaite convertir notre regard ce matin, c'est ce qu'il toujours souhaite pour nous en tout cas, c'est ce qu'il a en tête pour nos âmes, eh bien je vous propose de le laisser faire et de nous mettre à son écoute. On le voit et on l'entend tous les jours en ce moment, en cette période électorale ou pré-électorale, où chaque mot doit être bien soigneusement pesé. Quand ils s'expriment à la radio ou à la télévision, les politiciens utilisent souvent ce qu'on appelle des petites phrases. Vous savez que récupèrent volontiers les journalistes, d'ailleurs, ça leur simplifie le travail. Des formules en général brèves, percutantes, amusantes, parfois pittoresques, pourquoi pas, et qui sont destinées à frapper les esprits et bien sûr à s'inscrire dans les mémoires. C'est comme ça que ça fonctionne. Ces petites phrases, vous en avez quelques exemples tous les dimanches sur les feuilles que vous avez entre les mains, sont ces proverbes, ces adages, voilà, ces maximes, ces sentences, qui étaient beaucoup plus utilisées d'ailleurs par nos pères que par nous-mêmes, mais qui prouvent en tout cas que cette technique des petites phrases ne date pas d'aujourd'hui. Et on la rencontre bien souvent d'ailleurs dans l'Antiquité, chez les stoïciens, évidemment beaucoup chez les rabbins, qui utilisent beaucoup aussi la technique, et bien sûr aussi Jésus, qui sait très bien s'en servir, on le lit tout au long des évangiles. À la question, qu'est-ce que le royaume des cieux, que signifie, que désigne cette expression étrange, un théologien, normalement constitué, vous écrirait un pavé de 600 pages avec plein de mots en grec, en hébreu, en latin, avec plein de formules théologiques. Il faudrait prendre beaucoup de temps, lire tout ça très lentement pour bien l'assimiler, le comprendre et pouvoir s'en servir. Jésus, lui, il fait la même chose mais en 40 secondes. En 40 secondes, il lui faut 40 secondes le temps de raconter une anecdote, le temps de raconter une petite histoire. Il est vrai qu'il en raconte donc plusieurs, puisque le chapitre 13 de Matthieu en compte 7, mais même ces 7, lus bout à bout, ça nous prendrait quoi, 3-4 minutes. Alors parmi ces paraboles, celles de la perle de grand prix et du trésor caché sont les plus brèves que nous connaissions, un ou deux versets chacune, trois lignes peut-être dans nos éditions du Nouveau Testament. Impossible quand même de faire plus court. De quoi satisfaire en tout cas toutes les personnes qui sont toujours un peu pressées. Et remarquons que cet homme qui labourait la terre, peut-être dans le champ d'un patron ou d'un propriétaire, c'est bien par hasard que notre homme tombe sur ce trésor. Il semblerait qu'il ne cherchait rien. Alors imaginez sa joie. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de trouver un jour un trésor comme ça, enfoui quelque part ? Imaginez sa joie, ce qu'il a entrevu dans ce qu'on peut imaginer être un coffre, ça lui paraît tellement précieux qu'il va certainement tout lui sacrifier pour arriver à l'obtenir. Il va se séparer de tout ce qu'il a pour s'offrir un avenir nouveau. Donc voilà un homme qui trouve le royaume de Dieu de plein fouet, dans son quotidien, dans son lieu de travail, alors qu'il ne s'y attendait certainement pas. Et je trouve ça plutôt intéressant pour ce que ça peut signifier pour notre propre quotidien et notre manière de rencontrer le royaume. Voilà en tout cas qui le remplit de joie et qui le soulève d'une confiance nouvelle dans l'avenir. Mais le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors ici, le terme « marchand », c'est la traduction du mot grec « amporos », c'est-à-dire celui qui voyage sur terre comme sur mer, en général pour le commerce. Et de ce voyageur, il nous est dit qu'il cherche. Il est à la recherche de belles perles. En grec, « margaritas ». C'est le terme par lequel, en tout cas, est désignée la sagesse dans les Septante. La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Dans le livre des Proverbes, il est dit « La sagesse est semblable à de belles perles ». Il y a un jeu de mots là, en hébreu. Cet homme, ce voyageur, alors, serait-il à la recherche de la sagesse dans ses voyages ? Et ce qui pourrait nous confirmer cette intuition, c'est que le verbe que nous avons pour chercher, en grec c'est zétéo, il évoque aussi celui qui est en recherche spirituelle, parce que le verbe signifie aussi désirer, questionner, chercher à résoudre par la pensée, par la méditation, par le raisonnement, en s'interrogeant, s'efforcer de trouver. Il y a vraiment une recherche là dans ce verbe-là. Et voilà que cet homme qui cherche, ce voyageur, finit par trouver, alors non pas ce qu'il cherchait, des perles, mais une perle dont la valeur dépasse toutes les autres et qui mérite le détachement de tout ce qu'il possédait pour l'obtenir. Ainsi, le royaume de Dieu, nous dit Jésus, peut être révélé dans leur quotidien à ceux qui ne le cherchent pas, comme à ceux qui consacrent leur vie entière à le chercher. Et, une fois trouvé, ce royaume si précieux mérite qu'on lui sacrifie tout le reste. On a vu que l'un comme l'autre, que ce soit l'homme qui découvre le royaume par hasard dans le banal de son quotidien ou celui qui a parcouru les mers avec cette soif au cœur de comprendre et de connaître ce qui pourra étancher cette soif, l'un comme l'autre rencontre le royaume. Et dans leur joie, acceptent et comprennent que rien n'a désormais autant de valeur pour eux. Ils vont désormais avancer avec ce qui a le plus de valeur pour eux dans l'existence, ce royaume. Cette rencontre les rend même capables de sacrifier toutes leurs anciennes sécurités. Alors peut-être que c'est ce qui les séparait de Dieu jusque-là, peut-être ces péchés auxquels ils tenaient tant, et qui tout d'un coup disparaissent comme ça devant l'éclat de la rencontre avec ce royaume. Et c'est pourquoi abandonner nos habitudes handicapantes pour la foi est si redoutable et difficile et pénible si la rencontre avec le Dieu vivant ne s'est pas faite. Une vie sainte sans Dieu, c'est l'enfer. Alors c'est tout au plus de la bonne morale, mais le vivre, c'est l'enfer. Je le sais parce que j'ai essayé pendant quelques années. C'était l'enfer. Je ne vous donnerai pas les détails là maintenant, mais essayer de vivre la sainteté sans cette vie de Dieu en soi, c'est compliqué. Donc, notre but pour nos enfants à la maison, au caté, ce n'est pas tant de leur donner une bonne morale chrétienne ou protestante, même protestante, mais c'est de leur donner soif. C'est de leur donner soif de chercher par eux-mêmes, soif de rencontrer ce Christ vivant par eux-mêmes, soif de faire cette rencontre, et c'est bien plus exaltant que leur fournir juste une bonne morale. Alors mes amis, si c'est comme ça, tout ce que je viens de dire, que nous recevons dans une première lecture ces paraboles du royaume, si c'est comme ça d'ailleurs que nous les avons toujours comprises, je voudrais que nous ayons la souplesse maintenant de nous déplacer un peu et de nous confronter à une autre manière de voir. Car rappelez-vous, Jésus cherche à convertir notre regard, convertir notre manière de recevoir ses enseignements. Alors continuons un petit peu à cheminer avant de conclure. Alors nous savons bien, vous et moi, que nous ne pouvons pas acheter notre salut. Il est gratuit. Il est gratuit pour tous. Soyons-en persuadés. D'ailleurs, c'est un peu le leitmotiv protestant. Hein. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à vendre pour être sauvés. Qu'aurions-nous à offrir à Dieu pour notre salut? Réfléchissez à ça. Et c'est pourquoi mettez donc de côté tout ce que j'ai pu dire jusque-là ce matin, hein, ce royaume que nous trouvons en le cherchant ou pas, pour voir maintenant autre chose que nous dit cette parabole de Jésus. Autre chose, c'est l'amour de Dieu pour nous. Amour qui nous cherche par-delà les mers et au plus profond de la terre, car bien sûr le trésor, la perle de grand prix qu'il cherchait et pour laquelle lui, il a donné tout ce qu'il avait pour l'acquérir, cette perle de grand prix, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et dans ces deux récits, vous voyez le Seigneur lui-même qui, cherchant le trésor, il sait très bien ce qui est à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il a voulu nous tirer de là. Il sait cette richesse qui est à l'intérieur, et c'est pourquoi il a tout donné pour l'acquérir. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lui a tout donné. Et en terminant son enseignement sur le royaume, Jésus pose donc cette question. Avez-vous compris cela? Et cette question, c'est un appel de la part de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez vraiment? M'avez-vous vraiment reçu? Comprends-tu enfin la valeur que tu revêts à mes yeux? Il y a des montagnes de trésors en toi, tu es ma perle précieuse. Comprends-tu que pour toi, je renoncerai à tout ce que j'ai? Alors, mes amis, je crois que ces paraboles n'annoncent pas autre chose, en fait, que l'Évangile dans toute sa simplicité. Cet Évangile qui est bonne nouvelle pour chacun et pour chacune d'entre nous. Alors, rien à faire, rien à vendre. Mais à chaque fois que nous relirons ce passage, ou à chaque fois que peut-être notre chemin de vie nous fera tomber sur une perle que nous voyons autour d'un cou, quelque part, ça nous arrive dans l'existence de tomber sur des perles, eh bien souvenons-nous à quel point chacun et chacune nous sommes précieux aux yeux de Dieu, qui comme un marchand de perles passe son temps à nous chercher tant il voit les richesses qui sont en nous. Il les sait, il les connaît, et il veut les déterrer, hein, les mettre à l'air. Et c'est bien lui qui nous cherche, bien plus que nous qui le cherchons. Et il nous cherche, et c'est ça la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et pensons que ce n'est qu'une image en plus, hein, c'est une parabole, parce que nous autres, les uns et les autres, nous valons bien plus qu'une simple perle, soit-elle la plus belle de toutes. On est bien d'accord ? Oui, tranquillement, alors, quand nous aurons un moment paisible, prenons chacun et chacune le temps de repenser à toutes ces considérations et à la valeur que Dieu discerne en nous et que nous portons en nous. Et comme cet homme de la parabole qui trouve le trésor, alors laissons-le déterrer, mettre à jour ces richesses qui sont en nous. Parce que c'est ça, c'est cette libération de nous-mêmes qui donne tant de joie et de satisfaction à ce marchand de sagesse divin. Amen.